Avec cette femme samaritaine, à l'instant même où elle abandonne sa cruche et où elle rentre dans la ville. Verset 28, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé, moissonnez où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans ce travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Mélodie nous a dit que cette femme a abandonné sa cruche sur place alors qu'elle était venue pour ça. Nous ne laissons tomber que ce qui prend tout à coup, soudainement, une importance secondaire face à une donnée devenue prépondérante. Et de fait, son discours, est imprégné de cette nouvelle importante et capitale à ses yeux, à tel point même que pas mal de gens approchent à leur tour. Et il est vrai qu'elle a un message percutant, vous imaginez. Dites donc, je me demande si je n'ai pas rencontré le Christ. Mais pourtant, au verset 39, celui que nous avons lu il y a quelques instants, nous apprenons que ce n'est pas à cause de cette parole-là que ces gens reçurent le Messie, Jésus comme le Messie, mais parce que Jésus avait dit à la femme tout ce qu'elle avait fait. Il t'a dit tout ce qu'elle avait fait ? Ouais. Tes 5 maris, il t'en a parlé ? Ouais. Et ton mec, là, qui n'est pas ton mari, il t'en a parlé aussi ? Ouais. Faut qu'on aille voir ça, hein. La femme s'est présentée à ces gens avec 2 aspects dans son message. Premièrement, sa croyance, ou son amorce de croyance, ne serait-ce pas le Christ ? Et deuxièmement, l'action personnelle de Jésus dans sa vie. Et c'est la deuxième chose qui a marqué ces gens. L'action personnelle de Jésus dans la vie de cette femme samaritaine. Et la samaritaine elle-même est plus frappée par ce que Jésus a dit que par son affirmation d'être le Messie, puisque quelques instants auparavant, pourtant, et pour une fois, il l'a dit sans ambiguïté, « Je le suis, moi, le Messie, qui te parle. » Mais ça ne dure pas, et ce n'est qu'une étape transitoire sur le chemin de la foi, car nous lisons qu'ils finiront eux-mêmes par croire en Jésus après l'avoir personnellement rencontré. Et quand ils disent « ce n'est plus à cause de tes paroles que nous croyons », ils ne font que confirmer cela, que pendant un temps, quelques instants, quelques heures peut-être, ils ont cru à cause de son témoignage, mais qu'ensuite, très rapidement, ils ont expérimenté eux-mêmes une croyance personnelle en Jésus. Venir auprès des gens en leur annonçant notre croyance, on le voit ici, cela ne leur apporte pas grand-chose. Croyez en Jésus parce que moi-même j'y crois, ça ne convainc pas grand monde. Alors après, bien sûr, ça dépend du contexte, parce qu'on va trouver un contre-exemple dans ce même évangile de Jean, au chapitre 1, avec André et un copain à lui, avec Pierre et Nathanaël, qui sont attirés par l'éventualité de rencontrer le Messie de Dieu. Mais là, le contexte est un petit peu différent. Nous étions entre Juifs, à l'affût du Messie, et dans un contexte extrêmement religieux, un contexte général extrêmement religieux. Par contre, notre contexte d'aujourd'hui, celui de la Samarie et de cette ville de Samarie, est beaucoup plus proche de notre contexte à nous, en ce 21e siècle. Et ce contexte est très différent. Je crois en Jésus à cause de tout ce qui a, de tout ce que tu as fait, à cause de tout ce qu'il a fait pour moi, en moi et de moi. Alors ça interpelle. Qu'a-t-il fait? Raconte-nous. Alors bien possible que bon nombre d'entre eux vont rire, qu'ils rient. Peut-être certains vont trouver ça trop simpliste, ennuyeux, voire dangereux pour leur propre certitude. Mais au milieu de tout ça, il finit toujours par s'enlever certains qui disent « Moi, je crois que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Désormais, je ne crois plus à cause de ce que Jésus a fait pour toi, mais à cause de ce qu'il a fait pour moi. Je ne m'approprie plus ta croyance, je crois en Jésus. » Et vous le savez, notre vision a été exprimée, nous le répétons souvent, par cette idée de faire des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples. Mais ici, et comme ici, ça passe par quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et ça passe aussi par quelqu'un qui parle à quelqu'un, qui parle à quelqu'un, qui parle à quelqu'un. Mais vraiment, ce que ça nous montre aussi, ce passage, c'est que ça ne passe pas par quelqu'un qui croit en quelqu'un, qui croit en quelqu'un, qui croit en quelqu'un. Paul le dit aux Corinthiens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. L'évangélisation, ça ne consiste pas à demander aux gens de croire en notre Église, en notre pasteur ou en nos prédicateurs. Vous connaissez la différence entre prédicateur et prédateur? C'est que dans prédicateur, il y a un hic. Un hic sans H parce qu'on coupe la tête à personne, mais il y a ces deux IC, invités à Christ. Si je vous dis ça, c'est pas parce que j'aurais remarqué que nous tombions dans le travers de prêcher pour nous-mêmes, plutôt que pour Jésus, pour notre Église, plutôt que pour l'Église universelle. Il me semble au contraire que nous sommes respectueux des personnes et des autres Églises et que nous accueillons la diversité comme autant de manifestations de la richesse de Dieu. En tout cas, nous l'avons inscrit dans les valeurs de notre vision. Nous avons inscrit la conscience du corps de Christ, la conscience de l'Église universelle, et nous voulons rester vigilants sur ce point. Mais si je vous dis ça, c'est peut-être parce que, sous couvert de respect des personnes et de leurs croyances, peut-être à cause du poids de l'histoire de l'Église, de ses scandales et de ses divisions, peut-être à cause du débat entretenu par le débat sur la laïcité, débat franco-français, nous pourrions peut-être nous sentir retenus d'annoncer Jésus-Christ. Et ça n'est pas l'esprit dans lequel nous voulons ni pouvons accomplir notre mission de faire des disciples. Nous avons vraiment besoin de nous libérer de ces craintes, de craintes de cet ordre, et de lâcher le frein à main. Un frein à main, c'est très utile à l'arrêt, mais nous avons décidé d'avancer. Hier soir, j'ai vraiment eu le bonheur de me trouver avec le groupe T3CQ. Alors, c'est pas le nom d'une nouvelle marque de smartphone. Vous avez, je suppose, entendu parler du groupe T3CQ. C'est quoi le groupe T3CQ, si je prends quelqu'un au hasard dans l'Assemblée? Wow, bien. Très bien. Je m'attendais à ce qu'on me dise ce groupe de jeunes. Non, non, tu crois ça change quoi? Voilà. Et donc ça, ce nom, si j'ai bien compris, un peu exotique, hein, est né d'une réaction salutaire de nos jeunes qui se sont dit « Nous ne sommes pas ici juste pour être bien entre nous. Nous ne sommes pas ici pour nous gargariser de connaître un grand nombre de versets bibliques, sans que ça n'ait d'autre incidence sur nos vies et sur celles des autres. Nous sommes ici pour savoir ce que Dieu attend de nous comme croyants. Nous sommes ici pour entendre l'appel de Dieu, et nous sommes décidés à répondre à cet appel. Croire, ça change quoi? Ça change quoi si Pierre cède à la tentation d'enfreindre la loi juive en se rendant chez Corneille, un homme pieux, certes, mais tout de même un incirconcis et, en plus, un officier romain? Il aurait pu renoncer. Et personne ne lui aurait reproché. C'est même le contraire qui lui a été reproché par des croyants qui, parce qu'ils étaient circoncis, se croyaient bien dans les clous. Chacun chez soi, restant entre juifs. Que les juifs se mettent à croire en Jésus, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Mais ne nous mélangeons pas avec les Romains ni d'autres païens, chacun son Dieu. Ça change quoi si Paul, après sa rencontre avec Jésus, remonte sur son cheval et poursuit son chemin comme si de rien n'était? Il y avait des témoins de cette manifestation curieuse qui venait de le mettre à terre. Mais nous déduisons que des actes des apôtres que seul Paul avait entendu distinctement l'appel de Jésus. Dans son entourage, qui aurait reproché à Paul de poursuivre son chemin de haine envers les disciples de Jésus? Ça aurait changé quoi? Nous le savons, nous, ce que ça aurait changé. Grâce à cela, l'évangile a été prêché dans le monde romain et hellénique pour le salut de multitudes de personnes, et aujourd'hui encore, ces lettres nous servent d'instruction pour nos vies. Mais Paul lui-même, il faut bien réaliser cela, Paul lui-même n'en avait encore aucune idée. Où nous conduirons nos pas si nous les mettons dans ceux du Seigneur? Si nous croyons que Jésus s'adresse non seulement aux 11 qui sont autour de lui, mais aussi à nous quand il parle de faire de toutes les nations des disciples, comment pouvons-nous croire qu'à l'instar des 11, nous ne serons pas, nous aussi, conduits en dehors des sentiers battus jusqu'à présent par nous-mêmes et par nos églises? Comment pouvons-nous croire que nous n'avons pas d'autres responsabilités que nos enfants et ceux qui frappent spontanément à nos portes? Ça change quoi si Jésus ne demande pas à boire à la Samaritaine? Ça change quoi pour elle et pour ceux de son patelin déconsidéré? Il ne faisait que passer par là. Le chapitre 4 commence par ceci, et il fallait qu'il passe par la Samarie, ben il fallait quoi. Et il était fatigué. Il ne faisait que passer, il était fatigué, il suffisait qu'il se repose un peu, une petite pause, ça ne fait pas de mal, tous les deux heures la pause s'impose, et les disciples étaient pendant ce temps allés chercher à manger dans la ville. Et il lui restait plus qu'à trouver une solution pour puiser un peu d'eau de ce puits, mais surtout sans dépendre de ces gens de seconde zone que sont les Samaritains, comme les considéraient les Juifs, avant de reprendre son chemin. Pourtant, il va rester là 2 jours, nous a-t-il dit. Et ça va tout changer pour ces femmes et pour ces hommes, pour cette femme samaritaine. Mike, ça va être à toi. Avez-vous entendu parler de... Je n'ai pas trouvé comment il fallait le prononcer. Ah, j'ai demandé à... Ça s'écrit en français Albert McMakin. Donc tu peux le redire. Voilà. Est-ce que vous connaissez, avez-vous entendu parler de cet homme? C'était un agriculteur américain de 24 ans. Enfin, il avait 24 ans en 1934. Et il était récemment venu à Jésus. Et il voulait parler de Jésus à tous ses amis. Et un jour de cette année 1934, un pasteur itinérant vient dans le village voisin, et Albert McMakin loue un vieux camion et propose à ses amis de les y emmener. Et un de ses amis refuse, net. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la conduite automobile et les filles. Et Albert lui dit, si tu viens, je te laisse conduire le camion. Alors, si c'était le prix à payer, assister à cette soirée pour conduire le camion, hein, finalement, c'était pas si cher que ça. Mais voilà. Il a été touché par le message et est revenu chaque soir. Et un soir, le prédicateur a proposé, si vous voulez vous donner votre vie au Christ, avancez, je prierai pour vous. Et ce jeune homme qui était juste venu pour conduire le camion, s'est avancé en donnant sa vie au Christ. L'histoire ne dit pas qui a conduit le camion sur le chemin du retour le soir, ce soir-là. Mais savez-vous comment s'appelait cet adolescent? Billy Graham. Ça change quoi si Albert McMakin se tait plutôt que de convaincre Billy Graham d'assister à cette soirée? Il ne sera pas demandé des comptes pour les âmes qui ne seront pas sauvées. Par contre, je suis sûr qu'il nous en sera demandé pour les paroles que nous n'aurons pas prononcées, pour les invitations que nous n'aurons pas lancées, pour les graines que nous n'aurons pas semées alors que nous en avions les mains pleines. Vous voyez cette corbeille de fruits? Ainsi disposé, là, à température ambiante, ils vont lentement parvenir à maturité. Le taux de sucre va monter jusqu'au point de devenir succulent pour toute personne qui les portera à sa bouche. Mais si cette personne tarde à venir, ils vont pourrir et ils ne régaleront que les mouches et la vermine. Et nos jeunes se sont dit à eux-mêmes, t'es trois sécu. Tu crois, ça change quoi? Ok, nous voulons mûrir ensemble et afin de nous tenir prêts pour le jour où le Seigneur reviendra. Mais s'il tarde, nous ne voulons pas rester pourrir sur place. S'il tarde, et il tarde, nous savons pourquoi. Comme le grain de blé ne meurt pour revivre sans retourner à la terre, dans la terre qu'il a vu naître, nous voulons nous mettre au travail en semant ce que nous avons de plus cher, afin que germent d'autres fruits qui viendront mûrir à côté de nous dans une explosion de vie. C'est fabuleux de penser au potentiel de vie qu'il peut y avoir dans un seul fruit, dans un seul noyau. Il n'est pas garanti que si on sème un de ces pépins, un de ces noyaux, il va pousser en un grand arbre, ça va dépendre de beaucoup de choses, de là où il va tomber, de l'exposition, de la météo et sans doute de tout un tas d'autres paramètres. Mais cela ne nous appartient pas. Mais ce qui est garanti, c'est qu'en restant dans cette corbeille, il n'en ressortira rien d'autre que des restes desséchés et sans vie. Et l'image que Jésus offre aux disciples est bien différente de restes de vie sans vie et desséchés. Voici, les champs blanchissent pour la moisson, leur dit-il. Probablement, il reste 4 mois jusqu'à la moisson, ça peut donc nous renseigner sur la période à laquelle cet épisode se situe, mais c'est un peu secondaire. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir toutes les personnes de blanc ou de beige vêtues qui sortent de la ville, qui traversent les champs et qui se dirigent vers Jésus, toute cette moisson, en une seule moisson, en un lieu où personne ne s'y attendait. Toutes ces personnes qui se sont rassemblées et qui ont écouté. En ce lieu où ils n'étaient censés que faire une halte de courte durée. Franchement, qui s'attendait en 2011 à trouver Place Gaillard, en pleine fête de la musique, et quelle musique, hein, parfois, hein, un groupe de gospel chantait les louanges de Jésus. Ça nous semble tout naturel aujourd'hui de recommencer ça d'année en année, mais nous-mêmes, nous ne savions pas à cette époque-là où nous mettions les pieds. Qui s'attendait à les trouver là? Personne n'est venu sur rendez-vous. Personne n'est venu pour eux. Et pourtant, des gens se sont rassemblés et ont écouté. Ils ne sont peut-être pas encore assez mûrs pour la moisson, ou en tout cas, ne l'étaient pas jusqu'à présent. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies, nous dit Jacques. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Et désormais, la question qui se pose à nous est celle-ci. Quand ces précieux fruits seront mûrs, où seront les moissonneurs? Dans quelques minutes, Mike et Mélodie viendront nous expliquer comment nous pouvons participer concrètement afin d'être prêts pour cette moisson. Retournant vers son père, Jésus a dit aux 11 qui se trouvaient avec lui, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Puis il a ajouté, « Et moi, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Et je vous confesse avoir souvent pris cette dernière parole à la légère. Petite parole de consolation. Comme deux personnes qui s'apprécient en se quittant, restent en contact. Mais venant de Jésus, malgré tout, elle a toujours eu un écho en moi que Jésus se tiendrait toujours à mes côtés, en tout lieu, et elle déclenche encore souvent une certaine émotion. Mais il y a quand même un complément à la fin de cette phrase, complément qui nous renseigne sur beaucoup de choses. Jusqu'à la fin du monde. Je disais tout à l'heure que nous voulons croire que nous aussi sommes concernés par la mission de faire de nos contemporains des disciples de Jésus et que ça ne s'adressait pas seulement aux 11 qui étaient avec lui. Nous serions bien aveugles de croire le contraire, car les 11 sont morts depuis belle lurette et la fin du monde n'est pas encore intervenue. Et si Jésus ne s'adresse pas à nous, à qui s'adresse-t-il? Si je peux bien accepter qu'il m'accompagne jusqu'à la fin du monde, je peux bien accepter aussi que de faire de tous les peuples des disciples me concerne également. Une église qui aurait cessé d'évangéliser après les temps apostoliques serait une église qui aurait remplacé cette déclaration « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde » par cette autre déclaration « Fondez des églises, achetez des bâtiments, et quand vous les aurez remplis, attendez-moi. » Mélodie l'a souligné, « Lequel d'entre nous garde pour soi les bonnes nouvelles ?» Partager une bonne nouvelle, ça n'a rien que de très naturel, sauf à s'interroger sur nous-mêmes et à se demander si c'est toujours, à nos yeux, une bonne nouvelle. C'est très humain, cela. De finir par ne plus s'émerveiller des bonnes choses, et personne n'y fait exception. En définitive, peut-être avons-nous besoin de moins d'énergie pour passer à l'action que pour ranimer la flamme de notre premier amour, du jour de ces jours au cours desquels nous avons compris et reçu tout ce que Jésus a fait pour nous. À commencer, comme avec la Samaritaine, par s'intéresser à moi qui ne demandait rien à personne. Ensuite, comme la Samaritaine, à me faire connaître l'existence d'une autre source, alors que je venais tous les jours à cette eau stagnante, faute de mieux. Ensuite, comme la Samaritaine, me révéler mon état désespéré de pécheur, perdu, à moi qui pensais que le salut me serait accordé si je faisais plus de bien que de mal. Ensuite, comme la Samaritaine a me révélé d'où vient le salut. Le salut vient des Juifs, le salut vient de la parole de Dieu. Parole de Dieu que je ne connaissais que par bribes, ne l'ayant jamais reçue moi-même. Et enfin, cinquièmement, souffrir et mourir injustement sous les coups des hommes pour lesquels il donnait sa vie. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail, nous dit Jésus. On l'a lu tout à l'heure, ça. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Quoi de plus vrai que dans toute action d'évangélisation? Nous moissonnons un jour des fruits qui ont été semés par d'autres, alors que nous semons des graines que d'autres récolteront. D'autres ailleurs ou d'autres en d'autres temps. Mais ça ne nous appartient pas, pas plus que la météo. Quoi de plus vrai dans notre action d'évangélisation du moment, celle qui nous attend dans 2 semaines, des chrétiens d'un autre continent viendront semer dans un pays qui n'est pas le leur, à leurs frais et sur leur temps de congé. Et ça, ils le refont chaque année depuis 6 ans fidèlement. Ils ne s'imposent pas. Si nous leur disons que non merci, nous n'avons pas besoin de vous, ils iront ailleurs. Mais puisque nous avons accepté leur semence, cette année encore, alors entrons dans leur travail et tenons-nous prêts pour la moisson. Jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Ça, c'est cette parole-là qui nous engage, nous, aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement, viendra la fin. Amen. Éric l'a dit tout à l'heure, c'est le moment de la fin où, qui est le plus important, c'est l'amen de la fin. Vous connaissez, vous avez peut-être entendu cette déclaration de Daniel Yeci, le vice-président du CNEF. L'Église ne devrait pas seulement faire de l'évangélisation, elle devrait être l'évangélisation. Et je vous invite maintenant à écouter et peut-être entrer, hein, c'est un chant que nous ne connaissons pas, entrer dans le chant qui va vous être proposé sur la vidéo. Sentez-vous libre d'entonner ce chant et de le vous lever si c'est quelque chose qui correspond à votre cœur du moment. Un chant qui nous dit comment entrer dans l'évangélisation et comment être l'évangélisation.